6h30, 9h, les matins de France Culture, Quentin l'a fait.
6h40, les enjeux internationaux, et c'est un véritable retour de bâton pour les conservateurs en Corée du Sud. Les élections législatives qui se sont tenues hier ont marqué le grand retour de l'opposition progressiste dans les rangs de l'Assemblée, et ce, 2 ans seulement après l'élection à la présidence du conservateur Yoon. Sur fond de grave crise économique et sociale, celui-ci est aujourd'hui menacé de destitution. Alors comment expliquer une telle déroute pour son parti? Quelles sont donc désormais les perspectives politiques pour la Corée du Sud? Pour en parler, je reçois ce matin Marie-Orange Rivet. Bonjour madame.
Oui, bonjour.
Vous êtes maîtresse de conférences en études coréennes à l'Université Paris-Cité, membre du Centre de recherche sur la Corée, du laboratoire Chine-Corée-Japon à l'EHESS. Alors pour commencer, expliquez-nous le cœur de la critique qui est adressée au président Yoon. Qu'est-ce qui lui est reproché?
Alors, il lui est reproché de ne pas du tout ouvrir, si vous voulez, sa politique à l'ensemble du pays et à favoriser des intérêts particuliers. Et en particulier, on lui reproche de ne pas du tout avoir amélioré la situation économique et d'avoir, d'une certaine façon, empêché le bon déroulement démocratique de la gouvernance. Donc ça, ce sont des critiques vraiment importantes. Bien sûr, sa politique vis-à-vis de la Corée du Nord, qui est très dure, et qui rompt avec la politique de la main tendue qui existait jusqu'il y a 2 ans, là aussi c'est important, mais vraiment dans cette campagne, ce qu'on lui reproche, c'est sa gouvernance, également donc sa mauvaise gestion de l'économie.
Eh bien, vous avez abordé l'ensemble des points de notre échange. On va les aborder point à point, mais pour commencer, peut-être déjà de mémoire, en 2022, il avait été élu de justesse.
Oui, il avait été vraiment élu de justesse, et bon, ça c'est une des choses qu'on peut reconnaître à la démocratie sud-coréenne, le respect de l'alternance politique, et donc les progressistes lui avaient laissé le pouvoir, bien que ce soit joué à un mouchoir de poche.
Vous l'avez mentionné, le bilan économique du président actuel est mitigé. Pourtant, quand on regarde les chiffres, les statistiques, la Corée du Sud reste la 4e économie mondiale. Alors pourquoi tant de critiques sur le plan économique ?
Eh bien, tout simplement pour les gens. En 2017, quand il fallait acheter un appartement et le rembourser, eh bien, en 20 ans, on pouvait rembourser. Aujourd'hui, il faut 40 ans pour rembourser le même appartement. Donc les gens sont vraiment personnellement touchés de façon très concrète, plus que les chiffres à l'international sur le succès économique. Il y a un problème de partage et un problème aussi de vision et de projection, en particulier pour la jeunesse.
À propos d'économie, Marie-Orange Rivet, il faut nous expliquer une histoire, une anecdote. Pourquoi a-t-on autant parlé de ciboule, vous savez, ce légume qui s'apparente à un gros poireau ou à de l'oignon vert? Pourquoi a-t-on autant parlé de ciboule durant ces élections?
Eh bien, justement, parce que le président est allé dans un marché et qu'il a, enfin, on avait conseillé aux vendeurs de ciboules de baisser ses prix, et il s'est vanté en disant, eh bien, voilà, c'est pas si cher que ça, la nourriture en Corée, enfin, voilà, l'inflation n'est pas importante. Or, en Corée, les ménagères en particulier savent très bien le prix de ce genre d'aliments très basique.
C'est un peu la baguette française.
Voilà, exactement. Et cette déconnexion totale de l'élite dirigeante avec la réalité de la vie quotidienne des gens.
Il faut en parallèle rappeler la tentative d'assassinat dont a fait l'objet le leader de l'opposition en janvier dernier. Dans quelle mesure cet événement a-t-il également influencé les électeurs ?
Bien, écoutez, ça a rappelé aux électeurs un peu la violence qui existe dans la politique intérieure en Corée du Sud et le clivage qu'il y a entre les progressistes et les conservateurs. On a dit que l'élection présidentielle, la dernière de 2022, s'est jouée à très peu de choses. Finalement, les élections d'aujourd'hui législatives renvoient la même image, vraiment d'un clivage gauche-droite, si je puis dire. Enfin, c'est un peu simpliste. Mais et donc cette violence est tout à fait remarquable. Bien sûr, je pense que ça a aidé les conservateurs. Ça avait une tentative de conforter les conservateurs, mais ce sont vraiment les progressistes qui ont tiré leur épingle du jeu en renforçant leur majorité à l'Assemblée nationale.
La campagne a également été marquée par des grèves massives de médecins au cours des dernières semaines. Là encore, quel a été l'impact de ces grèves ? Peut-être même expliquez-nous les raisons de ces grèves.
Alors, les raisons de ces grèves, c'est une question qui tourne autour du numerus clausus. Le gouvernement voulait ouvrir pour qu'il y ait plus de médecins. Et puis, ils ont vu une résistance extrêmement forte du côté notamment des internes. Et la gestion de la crise n'a pas été fantastique puisque le gouvernement n'a pas réussi à la régler avant les élections. Mais ça montre vraiment un malaise de positionnement professionnel. Évidemment, pour l'opinion publique, cette question des médecins peut paraître un peu ridicule puisque ce sont des privilégiés dans le système, etc. Mais en réalité, ça va beaucoup plus loin. Il y a bien sûr derrière cela tout l'investissement des Coréens dans l'éducation qui coûte cher en Corée du Sud et dans l'obtention d'un statut social. Et là aussi, finalement, ça semble menacé.
Vous avez également mentionné, Marie-Orange Rivet, lors du début de notre échange, la politique internationale et notamment les relations entre la Corée du Sud et la Corée du Nord. Vous avez commencé à expliquer que les relations s'étaient notamment tendues, que la politique du président actuel était de plus en plus forte, de plus en plus virulente. Pourquoi est-ce que cela marque une rupture historique dans ces relations entre la Corée du Sud et la Corée du Nord ?
Alors, depuis les années 2000 et les sommets intercoréens de 2000 et puis 2007, etc., et puis plus récemment aussi, il y avait une politique de ce qu'on appelle un peu du rayon de soleil ou de la main tendue avec le Nord qui favorisait plutôt les échanges économiques. Ça, c'était les progressistes au pouvoir. Et puis, avec le retour des conservateurs liés à l'alternance démocratique par les urnes, eh bien là, on voit, en tout cas avec le président Yoon actuel, depuis un an, les communications téléphoniques rompues avec le Nord, par exemple. Donc, c'est vraiment une façon d'isoler la Corée du Nord, mais aussi la Corée du Sud, dans ce dialogue intercoréen. Là où on avait des avancées, par exemple, au moment des Jeux Olympiques qui se sont passés en Corée du Sud, les derniers. Et donc là, il y avait eu une équipe commune avec un drapeau unifié commun. Eh bien, on est très très loin de ça aujourd'hui.
On a le sentiment, on a l'impression que ce dossier, celui des relations avec la Corée du Nord, est absolument central pour la Corée, vu de loin. Est-ce que c'est le cas pour les Coréens ?
Alors bien sûr, ils sont encore techniquement en guerre. Ça touche notamment tous les jeunes hommes qui font un service militaire qui est très long. Ça justifie, si vous voulez, le mécontentement de certains hommes, jeunes hommes qui trouvent qu'il y a finalement une inégalité, que les femmes finalement réussissent mieux. D'ailleurs là, dans les candidats pour les élections législatives, on a vu beaucoup de femmes. Et c'est vrai que là aussi, ça crée un clivage en Corée du Sud, une rancœur, le discours antiféministe du président actuel. Donc ça a pu essayer de convaincre, si vous voulez, des hommes de voter pour les conservateurs, mais finalement, ce sont un peu les femmes qui ont un peu plus, alors il faudra voir les statistiques, mais en tout cas répondu à l'appel des progressistes et contribuent au maintien des progressistes finalement à l'Assemblée nationale.
Vous avez dit, Marie-Orange Rivet, au début là aussi de notre entretien, que le président actuel servait notamment des intérêts particuliers, que cela lui était vivement reproché. De quoi parliez-vous concrètement ?
Eh bien, là, on parle un peu d'une république des procureurs, c'est-à-dire qu'il était procureur et il a mis au pouvoir de ses amis procureurs, entre autres, et il a utilisé aussi les instruments de justice pour discréditer ses opposants progressistes. Et pour éviter, en fait, de partager le gâteau, entre guillemets, de la réussite sud-coréenne et de conforter en fait des acquis soit de grands conglomérats conservateurs, soit d'héritiers en fait alors ça date de la colonisation japonaise, mais en fait d'héritiers de collaborateurs pro-japonais et d'intérêts conservateurs qui eh bien finalement existent toujours aujourd'hui. Donc là aussi ça contribue, si vous voulez, à cliver le pays en termes de classe sociale également. Hein. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Oui.
On l'a dit, bien sûr, hein, ces élections législatives sont donc une débâcle pour le camp présidentiel. Les conditions législatives pour engager une procédure de destitution contre le président Yoon sont-elles aujourd'hui réunies ?
Alors, pas tout à fait. On parle d'une débâcle, évidemment, c'est un revers. Voilà, oui, bien sûr, c'est un revers. Le gouvernement actuel ne va toujours pas avoir de majorité, mais peut quand même exercer un veto présidentiel. Il aurait fallu 200 sièges au camp progressiste pour arriver à pouvoir destituer le président ou contrer ses vetos présidentiel. À ma connaissance, bon là on a les derniers résultats, on n'est pas arrivé à ces 200 sièges sur 300. Voilà, donc c'est très limite, mais bien sûr il peut y avoir quelques défections du côté du camp présidentiel. Bon, en Corée on peut retourner sa veste en politique, ça existe, mais c'est vrai que là il y a vraiment une opposition et une petite marge, que ce soit l'opposition progressiste ou bien le parti du gouvernement en place, il y a eu une certaine progression de quelques siège par rapport à la mandature précédente. En revanche, il y a eu disparition de certains partis, comme le parti écologiste ou de la justice qui avait fait alliance. Et donc, finalement, ces élections ont radicalisé un petit peu l'opposition gauche-droite, pour simplifier.
Merci beaucoup, Marie-Orange Rivet. Je rappelle que vous êtes historienne, maîtresse de conférences en études coréennes à l'Université Paris-Cité. Vous êtes membre également du Centre de recherche sur la Corée du laboratoire Chine-Corée-Japon à l'École des hautes études en sciences sociales. Il est 6h52.